Donc nous avons partagé pas mal de choses, n'est-ce pas? Vous avez vu que ce sont des messages sans concession, même s'ils ont empreint d'humour. Amen. Donc ça peut nous aider, ça peut nous froisser, mais ce qui est important dans la vie, c'est de regarder la réalité en face pour pouvoir la changer. Amen. Et ce soir, on va continuer dans cette lignée et parler de l'harmonie du couple dans les trois domaines sur lesquels nous avons déjà commencé à insister, le domaine spirituel, le domaine affectif et le domaine physique. Comme on a déjà pas mal parlé du domaine spirituel et affectif, on insistera plus dans ce message sur le domaine physique, qui est souvent le plus négligé quand on parle de ce sujet. Mais nous devons bien réaliser que si un seul de ces domaines est négligé, on ne peut éviter, je répète, si un seul de ces domaines est négligé, on ne peut éviter que Satan ait des droits sur notre foyer. Amen. Un couple qui est réellement uni est une véritable bombe face à ce monde et aux puissances des ténèbres, car la Bible nous dit, vous connaissez tous ce passage, qu'un peut en chasser mille et deux peuvent en chasser 10 000, donc il n'y a pas une addition, il y a une multiplication. Amen. Mais c'est pas deux, nous l'avons déjà développé plusieurs fois ce principe, tellement il est important, c'est pas deux qui sont juste ensemble, c'est deux qui sont unis. C'est deux qui prient ensemble dans une véritable unité, c'est-à-dire qu'ils sont sur une même longueur d'onde. Et mieux vaut prier avec quelqu'un avec qui on est sur une même longueur d'onde, avec une seule personne, plutôt qu'avec 5 000, où chacun part de son côté. Parce que l'unité, c'est un lien spirituel qui se crée avec des personnes. Et la personne principale avec laquelle on est supposé créer un lien spirituel, c'est notre conjoint. Comment affronter les tempêtes extérieures auxquelles nous avons tous affaire si la tempête souffle en même temps dans notre maison? Donc nous sommes appelés à avoir une maison bâtie sur le roc qui pourra résister à la tempête sous cette seule condition. C'est pourquoi il vaut mieux être seul parfois que mal accompagné. Et c'est pourquoi en tant que chrétien, je tiens à voir les deux angles. Le côté où on doit tout faire pour unir les couples, mais on ne peut pas unir des gens qui ne veulent pas s'unir. Donc parfois, il vaut mieux que soient désunis des gens qui ne veulent pas s'unir. Je sais que ça peut choquer ce genre de langage de la part d'un pasteur, mais il est temps de regarder la réalité en face. Donc nous devons veiller à ce que la présence de Dieu soit dans notre maison. La meilleure façon, c'est de prier, de louer Dieu ensemble régulièrement. Ce n'est pas une question aussi de saturer l'autre, vous savez, parce que c'est à double tranchant souvent d'essayer de prier ensemble ou de faire des choses ensemble. Si ça devient imposé à l'autre, où il a l'impression qu'il faut toujours, si moi j'aime prier une heure, il faut toujours qu'il prie une heure. Si moi j'aime prier en marchant, lui il doit prier en marchant. Si j'aime prier assis dans le canapé, il doit s'asseoir à côté de moi dans le canapé et prier en langue pendant une heure sans bouger. Et s'il ne le fait pas, ça va nuire à notre harmonie de couple. Là on tombe dans l'autre extrême. Vous le gonflez le gars. Ou la femme. C'est pourquoi moi je préfère que les gens s'harmonisent dans la prière dans des périodes courtes plutôt que de longues périodes. D'ailleurs, vous avez vu, c'est plus facile à garder pendant une longue durée des périodes courtes que des périodes longues. Et parfois on veut tout casser, allez on va prier tous les jours 2 heures et au bout du 2e jour, tu veux même plus prier 5 minutes. Tellement les 2 heures t'ont saturé. Donc on doit être sage. On doit faire attention parce que les excès se trouvent de tous les côtés. On peut être trop charnel, mais parfois trop spirituel. Et puis parfois, des choses qu'on va pouvoir vivre dans 10 ans, on ne va pas pouvoir les vivre aujourd'hui. Il va falloir aller par étapes pour pouvoir les vivre. Amen. Et donc, la vérité sans la sagesse de Dieu devient dangereuse. Toute chose, de toute façon, toute vérité qu'on essaye de mettre en pratique, rappelez-vous de cela, sans la sagesse de Dieu, devient un danger. La sagesse de Dieu nous montre le dosage, nous montre les formes, la manière, et on peut être juste dans le fond et être mauvais dans la forme. Nous sommes supposés, à travers l'amour que nous manifestons, nous nous manifestons l'un à l'autre, donner à nos enfants l'image de l'amour et de la nature de Dieu lui-même. En effet, nos enfants apprendront à découvrir Dieu comme leur père à travers le témoignage de leur père selon la chair. Il y a un grand problème au niveau du père. Lorsque vous écoutez les chanteurs, les acteurs, rendez compte que la plupart des gens n'ont pas eu une enfance normale? Et ils reviennent sans arrêt dans leur bouche, mon père n'était pas là, mon père buvait, mon père n'était pas à la hauteur. Et les gens sont blessés. Ils ont 50 ans, ils ont 60 ans, ils sont toujours blessés. Alors ces gens blessés, ils viennent dans l'église, mais ils ne viennent pas pour être blessés une seconde fois. Ils ne viennent pas pour être blessés par leur père spirituel maintenant. Donc autant dans le domaine du couple, et à la place de parents, et autant en tant que pasteur et personne dans le ministère, nous avons une responsabilité de père, alléluia, pour impacter toute une génération. Il y a une responsabilité de mère aussi. Nos enfants apprennent à découvrir Dieu comme leur père à travers leur père, mais ils apprennent aussi à découvrir les entrailles de miséricorde de Dieu à travers leur mère, parce que Dieu, lui, de toute façon, il est mâle et femelle. Amen. C'est pourquoi lorsqu'il a créé l'homme à son image, il a créé homme et femme, et il a tiré la femme de l'homme. Quelle responsabilité? On a parlé de responsabilité aujourd'hui. Et elle est double, cette responsabilité. Elle est là vis-à-vis de nos propres enfants, mais elle est là aussi vis-à-vis de nos enfants spirituels. Dans le couple, nous avons à la fois un appel commun et un appel individuel. Et la complémentarité, ce n'est pas se fondre dans l'autre et toujours tout faire avec l'autre. Justement, on peut être très unis parce qu'on fait aussi des choses séparément. D'ailleurs, il est important que chacun ait sa propre identité. Et lorsque chacun a sa propre identité, lorsqu'un va mal, il y a toujours l'autre pour être là pour le soutenir. Vous avez remarqué que dans un couple, c'est rare qu'on aille mal ensemble. Quand un il va mal, l'autre, c'est rare. C'est en général, il a la pêche. Parce que Dieu, il a prévu qu'il y ait toujours quelqu'un pour nous soutenir. D'où l'importance à cet instant que cet autre soit quelqu'un de positif. Et qu'il ne nous regarde pas lorsqu'il va bien en disant « Mais comment tu fais pour être dans cet état ?» Donc nous devons trouver une harmonie spirituelle. Alléluia. Julia donne souvent le témoignage de ce que Dieu lui a montré, peut-être que tu veux le donner toi-même, en ce qui concerne le fait de travailler ensemble à côté de son conjoint et non pas derrière.
Mais oui, j'avais marqué ça sur mon papier parce que je crois que c'est très important. Souvent, on parle des couples qui sont parfois pas en phase, ou des couples en phase, ou des couples fusionnels, des couples qui semblent d'être très unis de l'extérieur, jamais une dispute. Et à un moment donné, quand on regarde de plus près, on réalise que ce n'est pas vraiment le cas. Un couple qui ne sont jamais en désaccord, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ou parce qu'il y a un qui ne dit rien et que simplement elle adhère à tout ce que l'autre dit. C'est sûr que c'est parfois plus facile. Mais c'est certain qu'un va s'épanouir et l'autre non. Alors parfois c'est pas crainte, parfois c'est pas toutes sortes de raisons, et d'autres fois c'est même de la lâcheté de la part de la femme. Je m'explique. C'est que j'ai réalisé il y a bien des années, au début de notre mariage, j'étais en construction. Tu sais, c'est comme des sites web, il y a des pages où c'est marqué en construction. Tu vois? Mais moi, j'étais en construction. Le site web, il était, ça affichait les deux. Mais moi, j'étais en construction. Et que j'ai trouvé une manière de vivre ma vie sans trop de conflits. C'est que simplement, je me suis cachée derrière mon mari. Et pendant des années, c'était un peu difficile parce que j'avais des enfants. On ne peut pas tous s'épanouir dans tous les domaines en même temps. Et il faut avoir des priorités en place. Et on passe, nous, des femmes surtout, les hommes aussi peut-être, mais surtout les femmes, on passe par des phases différentes. Et quand on est phase bébé, couche, culotte, etc., c'est difficile d'être l'enseignante biblique ou le grand évangéliste qui va courir partout en France. Ce n'est simplement pas possible si on va faire un bon travail aussi à la maison. Il y a des années, il y a des saisons, il faut qu'on arrive à les reconnaître et de les vivre bien, de les vivre au mieux possible. De ne pas être frustré en disant « Je m'en sortirai jamais de ce rôle-là, je n'ai pas. » Et de notre côté, de ne pas avoir une attitude ou comment? Oui, de se résigner et de dire, ben, eh ben, tu ma fille, c'est ça ma vocation, c'est ça mon appel. Il faut se dire, eh ben, si j'ai ça dans mon cœur, un jour ça viendra. Et ensuite être un peu patiente. Il y a plusieurs exemples de femmes patientes dans la Bible, donc on peut choisir celle qu'on veut, et d'attendre le temps de Dieu et l'ouverture de Dieu. Mais souvent, on a pu visiter des écoles bibliques. Je vais prendre 5 minutes là-dessus, c'est intéressant. Et j'ai rencontré plein de jeunes gens qui, l'âge de vingtaine ou etc., qui avaient vraiment le feu pour le Seigneur, autant hommes que femmes. Ils partent dans une école biblique pour être formés, donc ils sont formés tous les deux. Ils ont tous les deux le feu pour servir Dieu. Ils sont prêts à partir au bout du monde pour servir Dieu. Et ensuite, oh, il se trouve l'âme sœur à l'école biblique. Donc, oh, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie. Ils se marient et hop, j'accélère un petit peu. Quelques années plus tard, ils sont mariés. Il est en petite église. L'homme s'épanouit. Il commence à faire des réunions. Il a la satisfaction de son travail. C'est difficile, mais il a sa femme qui est derrière lui. Elle est à la maison. Et d'un coup, elle est que bonne pour jouer le piano. C'est pas une référence, Antoinette, mais je sais. Mais elle est bonne pour jouer le piano, faire des gâteaux et garder les enfants à l'école du dimanche. Et d'un coup, c'est à ce moment-là que, attention, il y a un danger. Parce que là, il va y avoir un décalage qui se fait entre l'homme et la femme. Et l'homme, parfois, il n'attend pas. Il n'attend pas, il ne réalise pas que c'est frustrant, que ce n'est pas toujours évident, qu'il y a une saison, parfois qui dure plusieurs années, où sa femme, pour pouvoir assurer la suite de leur vie, leurs enfants, l'éducation, etc., elle est obligée d'investir de son énergie, etc. Mais très souvent, la femme, elle se retourne à l'intérieur d'elle, elle se décourage à ce moment-là. Et pour, ce n'est peut-être pas le cas pour beaucoup ici, mais pour tous ceux qui s'engagent dans un mariage, c'est important qu'on soit à l'écoute des uns des autres. Et que, je répète comme tout à l'heure, notre couple ne doit pas être basé sur un modèle de ce monde, mais on doit chercher et puiser dans la parole de Dieu comment deux personnes peuvent travailler, œuvrer ensemble dans le respect mutuel, tout en gardant leur rôle différents et s'épanouir dans ces rôles. Ce n'est pas si difficile que ça, mais il faut quand même faire un effort supplémentaire. Et souvent dans nos voyages, on a attiré chez pas mal des pasteurs, des couples où on a exercé le ministère. Et ensuite, parfois, il y a un petit moment privilégié où les hommes ils vont y aller comparer un verset biblique dans le salon. Et moi, je me trouve avec la femme de pasteur dans la cuisine. Et c'est arrivé assez régulièrement que c'est à ce moment-là qu'elle commence à me dire, « Ah oui, mais moi, j'aurais bien voulu, mais maintenant, moi, je suis contente pour mon mari. » Et ensuite, elle commence à avoir tout un discours où parfois, elle me dit, « Vous savez, mon ministère, c'est le ministère de mon mari. » Je ne suis pas contre. J'estime aussi qu'une grande partie de l'appel sur ma vie, c'est le ministère de mon mari et que je suis à son service en étant serviteur de Dieu et je vais tout faire pour qu'il puisse s'épanouir. Elle ne néglige pas l'autre, mais de se dire que c'est mon identité et qu'il n'y a que ça, et bien le jour que ça s'effondre pour une raison ou une autre, et bien il n'y a personne à l'intérieur. Et autrefois, et bien ces femmes, elles partagent leur frustration, elles commencent à en vouloir à ses enfants, malgré elle, comprenez ce que je veux dire, parce qu'elle ne peut plus aller à l'église aussi souvent qu'elle aurait voulu exercer le ministère à côté de son mari. Ou peut-être elle en veut à l'église, parce que l'église ne comprend pas, il prend tout le temps de son mari et qu'il ne passe pas assez de temps avec les enfants. Et parfois même, elle en veut à son mari, parce qu'il n'a pas compris, il a laissé sur le touche que lui, il est en plein match. Vous comprenez? Ce n'est pas obligé que ça soit comme ça, mais malheureusement, ça arrive assez souvent. Donc, je les exhorte, je parle avec eux, et souvent, je leur demande, mais qu'est-ce que tu veux? Si tu pourrais, Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard, peut-être, c'est normal, mais ne perds pas la vision. Quelles sont les paroles que vous avez reçues dans votre vie? Les deux sexes ne sont pas égales. On est égal devant Dieu, mais on n'est pas égal dans la société et souvent dans nos propres yeux, qu'on devrait être. Juste parce qu'on est différent, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas égal. Claudie l'a bien mis cette marque tout à l'heure. Et souvent, ces femmes, ils disent, mais je ne sais pas ce que je veux. Je ne sais pas. Et tellement ils ont pris l'habitude d'exister à travers leur époux, et je ne parle pas que de ceux qui sont dans le ministère, mais dans le monde en général. Souvent, il y a beaucoup de femmes, ils existent, où leurs opinions, c'est l'opinion de son mari. Leur avis, ils ne sont pas très sûrs. Et que même s'ils avaient le choix, chérie, qu'est-ce que tu penses? Et d'un coup, ils n'arrivent plus à formuler. Et je sais que j'ai passé par une phase, je disais, mais dis donc, je ne sais même pas. En fait, j'ai pris tellement l'habitude de ne pas décider pour moi-même que le jour que mon autre moitié n'était pas, je ne vivais que pas à travers lui et pas par mes propres opinions. Et il fallait que je fasse un peu une marche en arrière et que je me mis devant la face de Dieu. Et c'était simplement quelques années plus tard, quand mon mari a été malade, il avait le palu et qu'il était à l'hôpital avec une forte fièvre et on ne savait pas s'il avait le neuropalu, c'était très délicat et je le voyais très mal. J'avais la foi que le Seigneur il allait le relever, ça c'est sûr, mais j'ai commencé quand même à cette époque là je me rappelle très bien, d'aller marcher dans un jardin et je disais, Seigneur, je ne peux pas vivre comme ça. Si ce n'est pas pour moi, mais imaginez que ma vie s'effondre autour de moi. Et souvent, c'est ce qui se passe quand il y a un divorce qui n'est pas choisi, ou quand il y a un décès, ou quand il y a une tragédie ou des maladies, ou ça peut être même l'époux, l'épouse, que d'un coup retourne sa veste et dit, je ne veux plus entendre parler de Dieu, c'est terminé, et qui s'en va. Et d'un coup, la vie autour de nous, tout ce que nous avons construit s'effondre. Et c'est vraiment là où je disais, Seigneur, je veux que mes racines soient plus profondes que ce qu'ils sont. Dieu, que tu me gardes, parce que je réalisais que j'étais dans le péché de n'avoir pas cultivé mon propre âme et d'avoir cultivé mon esprit. Je me suis mais dans une position où j'étais dépendante de mon mari pour des tas de choses. Et je dirais même plus qu'après quelques années, nous, on le rend dépendant de nous, pas notre dépendance. Et on s'accroche à l'un et l'autre, c'est très beau de l'expliquer. Oh, regarde, comme ils sont en phase. Oui, mais d'être en phase, ça ne veut pas dire de manquer de personnalité ou de manquer d'identité. Et il y a un travail très important d'être fait. Et ça, c'est le danger quand on se marie, quand on n'est pas tout à fait mûr. Quand on n'est pas tout à fait... Moi, je suis contente que mes filles se sont mariées un peu plus tard. Enfin, nous, on s'est débrouillé. Les premières années, c'était un peu folklorique. Mais on était déjà baba. Donc, c'était baba cool. Donc, c'était pas grave. On s'est débrouillé avec beaucoup de grâce et beaucoup d'amour. Eh bien, on passe à travers toutes ces choses et on apprend. Mais il y a des manières un peu plus faciles et on peut gagner quand même du temps. On peut gagner du temps et on peut gagner de solitude et beaucoup de frustration si on prend le temps de s'épanouir dans le Seigneur avant tout. Et que je sais qu'aujourd'hui, on a passé par pas mal d'épreuves en presque 30 ans et qu'il y a eu des moments où, comme Claudie disait, où il était mal. Il y a eu des moments où, par les événements de la vie, dans le ministère, où on a été... fracassé par des épreuves, par des déceptions, par des problèmes finances, par... Je crois qu'on a... Non, Dieu me garde. On n'a pas tout eu. Mais on a eu suffisamment pour que le Seigneur nous brise dans les endroits où on avait besoin d'être brisé. Et dans ce cas-là, heureusement, on était deux. Il y a eu des fois où moi, j'étais en bas et lui, il était là, il me tenait. Et il y a eu des fois où lui, il était en bas. Et moi, j'étais là, je le tenais. Et c'est ça l'extraordinaire aventure d'être en couple, c'est de pouvoir se tenir l'un et l'autre. C'est sûr qu'il va y avoir des moments où on est frustré, il va y avoir des moments où on va en vouloir à la situation, notre situation de vie. Aujourd'hui, ce n'est pas très facile pour moi parce que j'ai une famille, on est encore 7 à la maison. Mes enfants, ils grandissent, ils reviennent, ils repartent. J'ai ma mère, mon frère Achat, et c'est comme ça. Mais, eh bien, parfois, j'aimerais avoir plus de temps. Mais le Seigneur, il connaît ces choses. Et quand moi, je serai prête, eh bien, il m'accordera autre chose. Mais il veut nous enseigner à travers chaque expérience de notre vie. Je finis juste avec un témoignage. C'est il y a plusieurs années, on avait des amis qu'on aimait beaucoup. Et ils étaient musiciens tous les deux, on travaillait ensemble. Et c'était un couple vraiment feu pour le Seigneur. Ils avaient un potentiel extraordinaire. Et ils avaient 2-3 petits-enfants à l'époque. Et cet ami, elle jouait les guitares, mais très très bien. Et j'admets aujourd'hui, j'étais un peu jaloux. Parce que moi, j'étais là avec mes 3 mômes et je mettais toute mon énergie et je n'arrivais pas toujours à avoir le temps de répéter le morceau et de travailler ma voix. Elle était toujours prête. Elle avait toujours les guitares accordées. Elle avait toujours quelque chose à faire, toujours. Et voilà. Je dis, oh, dis donc, comment elle fait avec les enfants et tout ça? Et on discutait une fois, on est allé prier au bord de la plage. Et elle me disait, mais tu sais, l'appel sur ma vie, c'est la chose la plus importante. Je ne laisserai rien m'empêcher d'entrer dans ma destinée. Mais je dis, waouh, ça c'est génial. Mais wow. Voilà, jusqu'à là, c'était bien. Elle disait, mais je ne laisserai personne m'empêcher d'entrer, même pas mon mari ni mes enfants. Mais je vais aller jusqu'au bout de ce que moi je veux faire pour le Seigneur. Et là, je sentais quelque chose un peu bizarre. Je disais, mais moi aussi, j'adhère, je veux aller jusqu'au bout, je veux accomplir ma destinée. Je suis prêt à donner ma vie pour le Seigneur, mais de le dire que je suis prêt à même délaisser mes enfants et mon mari, mais est-ce que ça ne fait pas partie de mon appel? Ça fait partie de mon existence à partir du moment que je l'ai choisi comme époux? Eh bien, il fait partie intégrale de mon existence, même si on est 2 individus différents, même si on désire s'épanouir on ne partage pas tout exactement, mais je sais que le plus heureux et le plus épanoui sera mon mari. Eh bien, le plus heureux et le plus épanoui, je serai aussi, et qu'un va aider l'autre d'entrer dans sa destinée. Et je trouvais un peu individualiste comme manière de parler. Et quelques temps après, cette jeune femme, elle a quitté son mari et elle a laissé ses 3 enfants pour partir soi-disant avec quelqu'un qui allait lui laisser permettre d'entrer pleinement dans son appel. Eh bien, le couple s'est divorcé et c'est cet homme qui a élevé les enfants toute seule. Aujourd'hui, eh bien, elle galère encore un petit peu. Elle a fait certaines choses, mais surtout quelques années plus tard, elle se repentit d'avoir pris cette attitude-là. Et pour finir, finalement, j'ai fait le bon choix. Parce que j'avais l'impression, parfois on a l'impression de perdre du temps. Parce qu'on aimerait être dans l'étape suivante aujourd'hui. Mais si on n'est pas là, c'est parce qu'il faut qu'on soit ici. Et d'essayer de forcer des portes veut que nous nuire et nous détruire. Et de détruire ce qu'on aime le plus autour de nous. Il faut qu'on fasse confiance à Dieu. C'est lui qui va nous amener à entrer dans les choses pleinement. Il sait la formation qu'on a besoin. Et même si ce chemin il est douloureux, eh bien, il était parfois pour nous tous les deux douloureux. Douloureux ensemble et parfois douloureux dans une solitude indépendamment aussi. Mais ça, c'est normal. Et on a commencé avec Claude, il y a à peu près une dizaine d'années, de travailler sur notre aspect de notre mariage. C'était de rendre son indépendance à chacun. pas ni... Alors j'avais hyper peur parce que je pensais que si j'allais m'épanouir peut-être dans des domaines que lui il adhérait pas, j'avais peur qu'on allait perdre ses complicités. C'était justifié, mais humainement, mais ce n'était pas le cas. Et on a commencé petit à petit d'apprendre à respecter les différences de l'autre. Et aujourd'hui, eh bien, on est plus épanoui, on est plus indépendant pour être plus fort ensemble. Vous savez, quand tu as un avec un autre derrière, eh bien, ça peut avoir un impact parce que celui qui est devant, il a une super ombre, bien sûr, parce que c'est nous qui est derrière. Alors ça impressionne, mais il n'a pas autant d'impact que deux individus qui se tiennent un à côté de l'autre, dans la complémentarité, et où chacun il a son propre moteur. Et je crois que dans l'église où on est aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, c'est ça ce que Dieu il attend. Il attend des couples qui se lèvent, mais qui sont sûrs de leur identité. On revient encore, c'est un peu le thème, mais on ne peut pas tourner autour. Le plus sûr que vous êtes dans le Seigneur de votre appel, eh bien, le plus sûr, le plus fort vous allez vous tenir face à l'adversité quand il arrive. Et si un jour, eh bien, les épreuves de la vie vont faire en sorte que vous allez être dépouillés de tout, d'un homme, des enfants, des finances, et même de tout ce que vous avez construit pendant des années, vous n'allez pas vous effondrer. Vous allez tenir le cap et vous allez rester debout. Et vous allez traverser n'importe quelle épreuve et ensuite vous allez traverser le fleuve et vous allez vous trouver sur une autre rive qui sera encore plus beau que celle que vous avez délaissée. D'accord ? Vous avez laissé. Et je crois que je finis juste en disant cela. Il y a quelque temps, le Seigneur me donnait cette vision d'une éolienne. Et ces éoliennes sont extraordinaires parce que on dirait un petit quelque chose qui tienne là en hauteur, mais ils sont tellement ancrés dans le sol avec une telle profondeur et que même s'il y a des vents de 150-200 km à l'heure, au lieu de s'effondrer, au lieu de se briser, eh bien, ils se tiennent fort et cette force qui vient contre eux, ils ont la capacité de le transformer dans une énergie positive. Et c'est ce que je souhaite pour chacun de vous. C'est que face à l'adversité, eh bien, vous allez vous tenir ferme. Vous gardez votre foi dans le Seigneur. Vous êtes ancré sur le rocher qui est Jésus et il n'y a rien qui peut vous déstabiliser. Et vous allez trop prendre tout ça dans votre figure, eh bien, peu importe, eh bien, que ça souffle. Et encore plus fort, parce que je vais que le transformer dans une énergie qui va profiter tous ceux qui sont derrière moi et tout ce que j'aime. On est dans un voyage. Et ce voyage, eh bien, il va nous amener vers des moments d'allégresse et dans des moments de tristesse. Et l'épreuve, ce n'est pas aussi important que comment on va le gérer et ce qu'on va faire avec. Et on ne peut que le gérer bien si on a des bonnes racines. Sinon, on va perdre la peau. Alléluia. En tout cas, aujourd'hui, je remercie Dieu pour le mari parce qu'il me... Voilà, je suis contente de servir des guignols, parfois. C'est pas grave. Eh bien, c'est bien parce qu'on a une complicité. Et lui, il s'épanouit de plus en plus et moi, je m'épanouis de plus en plus. Et quand on est ensemble, eh bien, c'est de la dynamite. Et moi, je souhaite que chaque couple, il sera aussi de la dynamite. Et je veux voir de plus en plus des couples qui se lèvent. Je ne veux pas plus voir, et c'est mon souhait aussi pour le séminaire, on est en recherche, je peux faire une publicité, on est en recherche d'un couple qui va s'engager pour, mais qui va s'engager tant que vocation, de s'engager et de garder les enfants pendant les séminaires pour que les couples puissent venir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, c'est ou la femme ou l'homme qui viennent à cause des enfants. Mais ça, c'est toute une autre structure et on ne va pas juste faire une garderie et mettre une vidéo comme on est parfois obligé de le faire. Et moi, je ne veux pas simplement un homme ou une femme, je veux un couple qui se lève, qui a la vocation de transmettre un message aux enfants pendant les séminaires et qui s'attache à ce bateau et qui peut œuvrer un autre côté. Donc vous pouvez prier pour ça, parce que je veux voir des couples qui se lèvent pour le Seigneur. Amen.
Alléluia. Non, c'était pour le domaine spirituel. On va parler aussi du domaine affectif, parce que si notre vie spirituelle affecte notre vie affective, il est vrai aussi que notre vie affective va affecter notre vie spirituelle. La Bible dit en effet que nous devons agir avec prévenance, on en a parlé cet après-midi aussi, à l'égard de l'autre, si nous ne voulons pas que l'efficacité de nos prières soit altérée. Donc nous voyons bien que le comportement que nous avons dans le domaine affectif se répercute sur le domaine spirituel, parce que si nous n'avons pas une bonne relation, oui, volontiers, avec notre conjoint, eh bien, c'est l'efficacité de nos prières qui va être stoppée. Merci. Donc nous avons tous besoin d'affection. Qui n'a pas besoin d'affection ici? Voilà. À part vous. Ah, c'est un piège. Des fois, quand je fais lever la main comme ça, parfois c'est un piège. Nous avons tous. Qui a besoin d'affection? Donc, nous avons tous besoin d'affection. Et dans le couple, nous nous devons mutuellement l'affection. Et beaucoup de gens ne sont pas affectueux, et parfois parce qu'ils ont manqué eux-mêmes d'affection dans leur enfance. Mais tout s'apprend. Vous savez, si papa ne vous a jamais dit qu'il vous aimait, il y a des gens, leurs parents, j'en reviens pas, leur ont jamais dit qu'ils les aimaient de toute leur vie. Je connais une personne, même jusqu'au moment de la mort de sa maman, elle est allée à l'hôpital, au bord du lit, et ce qu'elle désirait, c'est au moins l'entendre lui dire avant qu'elle meure qu'elle l'aimait. Donc c'est difficile, évidemment, quand on ne vous a jamais dit qu'on vous aimait, qu'on ne vous a jamais caressé, qu'on ne vous a jamais pris sur les genoux. Vous arrivez au mariage et vous vous trouvez avec cette personne devant, vous ne savez plus comment la toucher. Quoi lui dire? Donc, l'affection se manifeste par des câlins, des paroles, le respect de l'autre, la disponibilité pour l'autre. C'est une manière de montrer à l'autre, autant qu'on peut, 24 heures sur 24, que nous l'aimons. Et quand il en est ainsi, il n'y a plus beaucoup de place pour la jalousie et les frustrations. Et il y a des choses à apprendre, à faire, d'autres à ne plus faire pour qu'un mariage soit une réussite dans ce domaine. À commencer par avoir la vision de la réussite d'ailleurs, et bannir la possibilité de l'échec. Combien de fois est-ce qu'on dit à l'autre qu'on l'aime ? Non pas comme une machine, hein, il faut que je lui dise, c'est l'heure. Non, mais à un moment donné, c'est naturel. Je sais pas, moi, je vois mes enfants traverser le salon. Oh, j'ai envie de leur dire, je t'aime, Dieu t'aime, alléluia, tu vas réussir. Il faut que je leur dise quelque chose. Amen. Donc, si vous avez un problème à manifester l'affection, vous avez un problème. Mais c'est pas grave, ça peut se réparer. Dieu est venu pour réparer nos cœurs. L'onction du Seigneur était sur Jésus et sur chacun de nous pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Mais il ne faut pas utiliser nos cœurs brisés comme prétexte de briser le cœur des autres. On est parfois dans une société où les gens disent « Ah oui, mais ce que j'ai fait, ça s'excuse parce que j'ai souffert. » Non, je suis désolé. Amen. Donc mettons-nous au travail. Et rappelez-vous que la parole est créatrice. Donc les femmes doivent être soumises à leur mari comme à Christ, et les maris doivent aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. Et qu'est-ce qui est le plus simple dans les deux programmes? Dites-moi. C'est pas évident d'aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église. Vous vous rendez compte de le programme? Le programme, il est le même pour les uns et pour les autres. Chacun sa part. Et chacun doit adopter le comportement que la parole de Dieu lui demande d'adopter personnellement, indépendamment, je dirais, de l'autre. En d'autres termes, vous ne dites pas à votre femme « Je te donnerai de l'amour si tu es soumise » et à votre mari « Je me soumettrai quand tu me donneras assez d'affection. » Voyez où on va avec ce genre de raisonnement. On peut tourner en rond longtemps. Et c'est ce qui se passe. Il y a certains, ils tournent en rond toute une vie. Parce qu'ils attendent que l'autre fasse sa part. Maintenant, il est évident que quand vous faites votre part, vous refaites votre part pendant des années, vous faites votre part, et l'autre en face ne fait pas sa part, au bout d'un moment, ben, il va y avoir une lassitude, et cette lassitude, elle deviendra normale. Il ne faudra pas dire, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Parce que le mode d'emploi, il est donné aux deux. Amen. Mais on ne commence pas à faire sa part parce que l'autre fait sa part. Est-ce que vous me suivez? Donc nous avons chacun devant Dieu la responsabilité de mettre en application le verset qui nous concerne nous-mêmes. Donc je l'ai dit cet après-midi, la Bible ne dit pas « Marie, soumettez vos femmes ». Dans la rigueur, c'est pas ta part. Elle dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Donc c'est sa part. Parfois on veut aider l'autre à faire sa part. Donc si notre vie spirituelle affecte notre vie affective, il est vrai aussi que notre vie affective va affecter notre vie spirituelle. Votre femme ou votre mari doit être votre meilleur ami aussi. Parfois dans les églises, et provisoirement, c'est peut-être ce qu'il faut dans certaines situations, mais on a affaire à des gens qui nous disent bon, « je vous dis ça, mais je ne le dis pas à mon mari, je ne le dis pas à ma femme ». D'accord, peut-être pendant un temps c'est ce qu'il faut jusqu'à ce qu'une guérison ait lieu, mais à long terme ça ne peut pas durer comme ça. Il y a des choses que tu ne dis dans la vie qu'à ton mari et qu'à ta femme, parce que ton mari et ta femme doivent être ton meilleur ami. Est-ce que votre femme, est-ce que votre mari est votre meilleur ami? C'est une bonne question à se poser ça. Il y a des tas de trucs que je ne veux pas lui dire parce que je sais déjà comment il va réagir. Mais vous devriez lui dire qu'il y a des choses que vous ne lui dites pas. Parce que justement, vous avez peur de la manière dont il va réagir. Ça va le faire réfléchir. S'il a vraiment envie de partager avec vous. Peut-être qu'il faut qu'il change d'abord son comportement pour que vous soyez rassuré. Amen. Le troisième point, un sujet non négligeable, le domaine physique, c'est-à-dire la vie sexuelle. Dieu nous a créés esprit, âme et corps, je le répète. Négliger le troisième point n'est en rien une expression de spiritualité, mais de l'inconscience. Cette négligence se répercute automatiquement sur les deux premiers. L'être humain, il est habité par un don de Dieu. Oui, c'est un don de Dieu et une forte énergie sexuelle. Et vous ne pouvez pas vivre sans prendre en considération ce point. Donc la sexualité est un des domaines principaux à travers lequel Satan travaille à détruire notre société, à détruire la jeunesse et à détruire les couples. Connaissant la forte pulsion sexuelle qui existe chez l'être humain, il s'efforce de l'attiser et de la canaliser dans des mauvaises directions. Donc ce qui est vraiment important au départ, c'est de réaliser que la sexualité, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas un don du diable. Le diable l'utilise beaucoup justement parce que c'est quelque chose de formidable. Amen. Mais chaque personne doit pouvoir se regarder dans la glace en disant ben, « si j'ai des besoins sexuels, ils ne viennent pas du diable, c'est parce que Dieu m'a donné ce don ». Alléluia, ce n'est pas quelque chose de honteux. Souvent, ça a été regardé dans les milieux catholiques comme quelque chose de honteux. Et c'est vrai qu'il y a des pulsions qui n'ont pas leur place au bon moment ou qui ne sont pas canalisées dans la bonne direction et qui sont honteuses à cause de cela, mais pas à cause de la sexualité en soi, qui est un don de Dieu. Alléluia. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être bien clair parce qu'il y a beaucoup de gens et beaucoup de chrétiens, malheureusement, qui ont encore une honte vis-à-vis de ce domaine. Or, c'est difficile d'évoluer dans un domaine qui nous fait honte. Amen. Nous sentons souvent une gêne à aborder ce sujet. Cette gêne provient de l'exacerbation du besoin normal pour chacun de garder sa vie sexuelle comme quelque chose de privé. Il y a un besoin normal de garder sa vie sexuelle privée. On ne va pas raconter aux gens comment on a des rapports sexuels. Amen. C'est privé. C'est normal. Il est bon de rester privé dans ce domaine. Mais pas de rester ignorant. L'impulsion, l'énergie ou attirance sexuelle est un don de Dieu. Regardez Genèse 3:16. Tes désirs se porteront vers ton mari. Lorsque Isaac, dans le pays des Philistins, a fait passer sa femme pour sa sœur, vous connaissez cet épisode? Pour ne pas être ennuyé. Là, nous avons l'exemple d'un homme qui a pas fait fort hein, au niveau du courage. Hein. Il nous est dit qu'Abimélec, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac, traduction second, alors on ne comprend pas, qui plaisantait avec Rebecca. Alors, en quoi le fait qu'il plaisante avec celle qui faisait passer pour sa sœur fait comprendre au roi des Philistins que ce n'est pas sa sœur, c'est sa femme? D'après le texte second, on ne voit pas beaucoup. Mais il est évident que la manière dont Isaac plaisantait avec sa femme ne laissait aucun doute équivoque quant à sa véritable relation avec elle. Alors je ne sais pas si la traduction de ce gore a omis volontairement d'être plus cru, mais la traduction du rabbinat français dit qu'Abimelech vit Isaac caresser Rebecca. Et d'un coup, c'était plus clair. Tu lui caresses ta sœur? Ou alors tu as des problèmes? Vous voyez, avec certaines traductions, on ne sait pas trop où on va. Hein. Donc, il serait malsain d'avoir un tel comportement en public. Mais il est tout à fait sain de l'avoir en privé. La relation dans le couple est supposée être empreinte du désir sain de l'autre, exprimé de diverses façons. Il faut que certains chrétiens aient plus de sensualité. Excusez-moi. Il y a un côté négatif charnel, mais il y a un côté qui est un don de Dieu. Et il y a des gens qui sont trop froids. Moi, j'ai souvent été choqué de ces images de certains pasteurs où ils sont avec leurs femmes, certains serviteurs de Dieu. On a l'impression que c'est des étrangers, quoi. Ou même, ils te reçoivent chez eux. Moi, mes enfants sont allés dîner chez des personnes qui sont des gens formidables, mais des couples qui sont dans le ministère. Ils sont revenus, ils m'ont dit, papa, ils s'aiment, ces gens. J'ai dit, pourquoi? Parce qu'on dirait des étrangers, quoi. On a mangé avec eux, on aurait dit deux personnes étrangères. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas ces manifestations naturelles d'affection. Et certains croient que c'est être spirituel de montrer au peuple de Dieu que nous sommes. Mais au contraire, le peuple de Dieu, il commence à douter. Il a besoin. Je crois que le peuple de Dieu, il a besoin de voir que les gens dans le ministère sont des gens normaux. Ok, sinon on n'a plus envie d'être dans le ministère au bout d'un moment. Voilà. Voilà, c'était pour avoir l'occasion de faire l'annonce, hein. Amen. Je voudrais citer aussi, puisqu'on y est, plusieurs passages du Cantique des Cantiques qui nous montrent deux êtres sainement enivrés d'amour et de désir l'un pour l'autre, et dont la relation amoureuse n'a rien de coincé. Maintenant, il faut les citer dans les bonnes traductions, ou dans les traductions les plus intéressantes. La traduction du rabbinat, par exemple, le Cantique des Cantiques. Tes caresses sont plus délicieuses que le vin. Super ça. Quelles sont délicieuses tes caresses? Elle insiste. Que mon bien-aimé entre dans son jardin en goûte les fruits. Ben, c'est quoi? C'est les questions de tomates, de pommes ou quoi? Oh, il faut être aveugle là. Le gars, il est invité à aller cueillir ses fruits. C'est son droit. C'est dans la Bible, hein? Ok? Donc, inspiré par l'Esprit de Dieu. De bon matin, nous irons dans les vignes, là, je te prodiguerai mes caresses. Eh bien, dis donc. Quand ils ne sont pas coincés, le soir, obligatoirement dans le lit, quand tout est fermé, dans les vignes, c'est bon aussi. En privé. C'est ça. Le point, c'est pas le lieu, c'est être en privé. C'est ça qui est important. Parce que si on commence à mettre certaines règles, la sexualité, c'est le soir, quand tout est fermé, que tout le monde dort, on va être coincé par nos règles. Au bout de 30 ans, on va en avoir marre de nos règles. Mais tout à l'heure, bien, on voit que Isaac et son épouse, eh bien, c'est même pas dans la chambre, hein, c'était dehors. Et puis là, c'est dans les vignes. Donc nous pouvons constater que la relation amoureuse du bien-aimé avec sa bien-aimée n'a rien de platonique, de statique, de glacial, mais est empreinte de désir. La notion de désir l'un pour l'autre est exprimée tout au long du livre. C'est ce qui ressort de plus fort. C'est ce qui ressort de plus fort dans le livre des Cantiques des Cantiques, c'est le désir. Alléluia! Donc le mode d'emploi, si je peux dire, de la vie sexuelle d'un couple se trouve avant tout dans 1 Corinthiens 7. Les Corinthiens se posaient d'ailleurs des questions à ce sujet. Et Paul y répond. Les mêmes questions que se posent beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Et ils ne s'étaient pas gênés pour en demander les explications à Paul. Et ce dernier non plus ne s'est pas gêné pour parler crûment et répondre à ces questions. Et il leur dit, en ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, et il développe plusieurs points, celui du célibat justement, celui des couples mixtes, des règles de la vie sexuelle, comment éviter l'impudicité. Et dans son introduction, il dit toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc l'homme ou la femme à marier sont donc supposés, même si ce n'est pas la raison prioritaire pour laquelle on se marie, on est bien d'accord, mais sont supposés éviter en se mariant le problème de l'impudicité. Ce n'est pas le seul fait, il faut bien comprendre, de se marier qui met un terme aux luttes internes, aux feux qui peuvent brûler généralement dans la chair d'une personne. C'est le fait de se marier et de respecter le code de la route, c'est-à-dire de se donner régulièrement l'un à l'autre. Est-ce que vous me suivez ? Cette nuance est importante à comprendre parce qu'on peut encore plus brûler et être livré encore plus à l'impudicité après s'être marié qu'avant. Pourquoi, si les règles du don mutuel de soi ne sont pas respectées, là où le mariage était supposé nous permettre avec plus de facilité d'éviter l'impudicité, il va multiplier le problème de l'impudicité. Imaginez cette personne qui pense enfin ne plus avoir les luttes qu'elle avait en tant que célibataire et qui se retrouve avec un conjoint qui ne se donne pas souvent à elle et qui se refuse régulièrement. Non seulement le problème subsiste, mais il devient une torture physique et morale, car à la différence d'avant, il a une personne sous son toit. Est-ce que vous me suivez ? Qu'il n'avait pas auparavant. Je le dis souvent avec humour, permettez-moi, mais c'est plus difficile de pas manger du chocolat quand on en a à la maison. Donc, le fait d'éviter l'impudicité est lié au fait de se donner régulièrement l'un à l'autre. Sinon, on peut souffrir encore plus du problème de la chair qui brûle. Vous me suivez ? C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Paul dit à chacun des conjoints quel doit être à la fois son comportement et quels sont ses droits. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. En effet, il est ici question de quelque chose qu'on doit à l'autre. Paul ne fait pas allusion au fait de lui devoir des enfants, c'est évident, mais à celui de devoir à l'autre sa part de réjouissance. Et disons, pour parler plus clairement avec les termes appropriés, même si ce n'est pas les meilleurs termes qui existent, nous devons à l'autre de l'amener à un orgasme satisfaisant. On est bien d'accord avec ce terme ? C'est ce qui est employé dans le monde. Je ne l'aime pas, mais j'ai rien trouvé de mieux. Amen ? Alors, pour l'homme, c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver en général, et on sait que c'est beaucoup moins facile pour la femme de s'y retrouver. Dans la sexualité, ça se travaille si on veut que les deux reçoivent ce dont ils ont besoin. L'homme, il s'en sort toujours. Ok ? Hello ! Me suivez ? Devenez pas rouge de la tête aux pieds, s'il vous plaît. Hein ? Je suis en train de commenter des versets bibliques. Et croyez-moi, il y va, Paul. Il continue. Hein ? Il y a tout un chapitre sur le sujet. Donc, ce qui doit être quand même important. Vous savez, il n'y a pas une seule phrase, pas un seul mot dans l'écriture qui n'a pas son importance. Amen ? Mais lorsque ce sujet prend tout un chapitre ou tout un paragraphe, c'est que Dieu il veut insister là-dessus. C'est que c'est important qu'on comprenne. Alléluia. Donc dans les versets que j'ai cités, il est question de donner à quelqu'un ce qu'on lui doit. Paul dit encore, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est son mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre. Dis donc, ça ne peut pas être plus clair. Et dans ces versets, il est question de donner à quelqu'un ce qu'on lui doit, c'est-à-dire de respecter son droit, de donner autorité à l'autre sur notre corps, puisqu'une personne ne peut avoir que l'autorité qu'on lui laisse avoir. Il est question de ne pas se priver mutuellement, il est question de donner, de se donner. Or, vous savez que le principe de l'amour, c'est le don. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, dans cette histoire de sexualité, je voudrais dire qu'il y a beaucoup plus que du sexe. Il y a de l'amour. Amen. Et c'est sous cet angle-là qu'il faut à tout prix le voir. Parce qu'il est évident, si on a autorité sur le corps de notre conjoint et qu'on l'aime, on ne va pas obligatoirement vouloir avoir des rapports sexuels avec notre conjoint quand on sait qu'il n'est pas bien, quand on sait qu'il a besoin de se reposer, ou quand c'est un temps pour vaquer à la prière, comme dit l'apôtre Paul ou autre, on ne va pas tomber dans l'autre déséquilibre aussi. Amen. Quand on réalise que l'amour a vraiment quelque chose à avoir avec les rapports sexuels. Et d'ailleurs, dans ce domaine-là aussi, notre priorité, ça ne va pas être à savoir comment moi je vais pouvoir avoir du plaisir, mais comment l'autre va pouvoir avoir du plaisir. Donc, il est question d'amour. Alléluia. Et nous devons être ceux qui doivent enseigner le monde vis-à-vis de ce domaine-là. Donc les rapports sexuels sont supposés être une expression d'amour des conjoints l'un à l'égard de l'autre. C'est un des principes de manipulation qui existe aujourd'hui dans cette société, et parfois chez beaucoup de foyers chrétiens, des femmes et des maris qui utilisent les rapports sexuels comme moyen de pression sur leur conjoint. Si tu veux qu'on se retrouve au lit ce soir, tu as intérêt de marcher comme je veux. Si tu fais pas ce que je veux, tu vas voir ce soir, ou plutôt tu vas rien voir ce soir. Donc on ne peut pas dire qu'on aime concrètement l'autre et avoir une vie sexuelle médiocre. Ok? Parce que, qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul? Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, amen, évolue, soit gardé irrépréhensible. C'est-à-dire, c'est quoi irrépréhensible? Marche selon la parole de Dieu. Et on vient de voir ce que la parole de Dieu nous dit sur ce sujet-là. Amen. Donc garder le corps irrépréhensible, c'est certainement pas garder le corps enfermé pour que personne ne le touche. C'est le faire fonctionner en fonction de ce que la parole de Dieu lui dit. Amen. Allez, souriez. Une des plus grandes expressions de rejet qu'on peut manifester à l'égard de son conjoint est de lui faire sentir qu'on n'a pas envie de lui. Une des plus fortes sensations de rejet qu'une personne puisse avoir, c'est lorsque son conjoint lui fait sentir qu'il n'a pas envie d'elle, pas envie de lui. Parce que se sentir désiré, c'est un sentiment merveilleux. Ne plus se sentir désiré tue l'amour, les rêves, fait vieillir avant l'âge. J'ai régulièrement affaire à des personnes qui se sentent rejetées par les refus répétés de leur conjoint. Une fois c'est non à cause de ceci, après c'est non à cause de cela, après c'est non, ben, je ne sais même pas pourquoi. Bon, de temps en temps c'est normal, mais quand c'est répété, c'est directement lié au rejet. Autant l'échange, rappelez-vous de ce que je dis, est lié à l'amour, autant le refus répété est lié au rejet. Et le rejet, c'est le contraire de l'amour. Donc nous voyons là encore que ça dépasse le cadre du physique. Nous touchons le domaine de l'âme, de la personnalité, des sentiments. La Bible nous dit d'être en tout temps enivré du charme de la femme de notre jeunesse, sans cesse épris de son amour. Oh, enivré. Enivré. On doit apprendre à toujours surprendre l'autre. Alléluia. Des années après être marié, il faut que l'autre nous surprenne toujours. Parce que il y a un côté fou chez la personne qui nous surprend toujours. Je ne sais pas si je dois lui donner le micro.
Sans danger, hein. Non, mais c'est important de réaliser qu'on est différents, les hommes et les femmes. Vous avez remarqué, les hommes et les femmes, on est différents. Et c'est certain que ce qui est important souvent pour une femme, c'est d'avoir ce contact avec le cœur, d'avoir un dialogue. Et s'il n'y a pas de dialogue dans le couple, il n'y a rien de mieux pour couper les désirs et ensuite ce sentiment de rejet. Et c'est essentiel qu'on prenne le temps de parler. En anglais, on peut dire pillow talk, c'est le discute du traversin. Voilà. Et que peu importe à quel moment de la journée, parfois on a juste simplement de rester quelques instants, et ce n'est même pas une question sexuelle, c'est une question de partage et de se retrouver pour parler cœur à cœur. Parce qu'à ces moments-là, on est vulnérable. Et cette vulnérabilité, ce n'est pas un tare, c'est une preuve de confiance, de permettre que l'autre nous voit vulnérables. Il a tellement de fierté, tellement d'orgueil, tellement de... il faut qu'on arrive à se connecter au niveau de cœur. Et nous, les femmes, on a besoin de parler. Si on sait que dans le cœur, eh bien, l'autre, il nous aime, qu'on est apprécié, ou que, voilà, ou que si on a quelque chose sur le cœur, eh bien, qu'on on a besoin de le parler d'abord, on a besoin de discuter, et ensuite, eh bien, on n'en a même pas besoin d'en parler. On n'a pas besoin de voir des conseillers comme beaucoup de personnes dans le monde. L'amour, c'est une puissance tellement forte, ça couvre pas seulement une multitude de péchés, mais une multitude de problèmes. une multitude de rejets. Et ensuite, eh bien, si l'amour est lié, eh bien, on sait qu'on va trouver une solution de toute façon. Et régulièrement, quand la vie devient trop confuse, devient trop compliquée, eh bien, on permet que le Seigneur nous ramène à cette point d'amour en disant, mais oui, en tout cas, on s'aime. Je t'aime, tu m'aimes, tu n'es pas parfait, moi non plus. On a fait des erreurs, blablabla, ce que vous voulez. Mais, ok, c'est le monde et nous dans le monde. On n'est plus seul, on est unis pour les meilleurs et surtout pour le meilleur. Et c'est important d'avoir un dialogue, c'est vraiment important. Autant que c'est important d'avoir un dialogue avec nos enfants, mais c'est encore plus important d'avoir un dialogue avec notre époux. Il ne faut pas qu'on vit avec un étranger à la maison. Je connais beaucoup de couples, ils discutent, ils ne parlent même pas, ils ne connaissent pas. Mais alors qu'est-ce que ta femme elle pense de ça? Je ne sais pas, ma foi, le monde est là, hein? Ma foi, je ne sais pas ce qu'elle veut. Vous aimeriez venir manger? Moi, oui, enfin, pour ma femme, demande là, hein, je ne sais pas. Je sais pas ce que... Et de, quand il y a des réactions comme ça, c'est, eh bien, ils ne se connaissent pas. Souvent, c'est, parfois, c'est parce que l'homme, il veut garder sa vie secrète à lui et il ne se livre pas à sa femme. Ses soucis. Il y a souvent, il y a un peu d'orgueil là derrière. Ou c'est peut-être parce qu'il n'a pas envie de partager un problème pour avoir un autre avis qu'il sera obligé de prendre en considération. Alors il ne dit rien et comme ça il décide toute seule. La femme, elle peut faire la même chose. Mais toutes ces choses, ce sont parfois les fuites. Parfois, on peut. J'ai rencontré des couples et ça faisait quoi? Une année qu'un avait l'amertume envers l'autre. Parce qu'elle se sentait oppressée, parce qu'il n'écoutait pas. Parce qu'il n'écoutait pas. Alors écoutez les uns les autres. Ce n'est pas simplement de parler, mais soyez à l'écoute. Ça couvre une multiple de problèmes. Allez, c'est bien.
Donc, petit temps par exemple. Alléluia. On jette plusieurs pépites là, hein, vous saisissez au passage. Ah. Gloire à Dieu. Donc nous ne sommes pas supposés ne plus avoir envie de l'autre les années passant, mais être toujours sous le charme. Hein? Et si ce n'est pas le cas, ben, il faut faire quelque chose rapidement. Parce que ça veut dire que l'adversaire il a mis le pied dans la porte.
Il faut cultiver ce jardin.
C'est un jardin. Vous savez qu'un jardin, ça se cultive. Ça s'arrose, ça se cultive. Il y a des mauvaises herbes qui veulent toujours... lancer leurs racines, qu'il faut arracher régulièrement. Un couple qui n'a pas une vie sexuelle régulière ne peut grandir dans l'unité, l'amour, la foi. Pas plus qu'une personne qui ne prie pas régulièrement ne le peut. Le principe de la croissance, bibliquement, repose sur le principe de la connaissance. Le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Un couple se détruit à petit feu s'il ne se connaît pas régulièrement. Rappelez-vous ce que j'ai dit cet après-midi sur l'expression de ce terme. Elle est utilisée dans la Genèse pour parler des rapports sexuels entre Adam et Ève. Adam connut sa femme, mais ça sous-entend aussi qu'il faut se connaître au niveau affectif, au niveau intellectuel, au niveau du cœur. Donc on ne peut pas grandir et développer une relation si on n'apprend pas à mieux se connaître, mais ça marche dans tous les domaines. Parce que la Bible emploie le même terme pour différents domaines. Donc la réussite de sa vie sexuelle est un facteur d'équilibre, de santé, de bien-être dans sa tête. Vous savez que le fait de ne pas avoir de relations physiques satisfaisantes, par leur qualité ou par leur fréquence, peut se répercuter facilement sur votre équilibre général. Les gens deviennent nerveux, tendus, irritables, sont plus sujets au piège du diable, comme le découragement, la dépression, l'obsession. Leur attention a du mal à se fixer sur les responsabilités de la vie de tous les jours. Donc attention aux excès de spiritualité dans ce domaine. Tant de chrétiens se compliquent la vie pour rien. Mais les docteurs vous diront, j'entendais ça à la radio encore l'autre jour, qu'avoir des rapports sexuels régulièrement est un facteur de bonne santé. Alors bon, quand on est dans une situation où on ne peut pas parce qu'on est célibataire, je crois que le Seigneur a un autre moyen pour nous faire nous épanouir. Mais dans ce cas, il faut qu'on soit des personnes qui apprennent à nous extérioriser différemment. dans la louange, dans la prière, dans toutes ces choses-là. Parce qu'il y a une énergie en nous, elle va être canalisée dans une autre direction. Amen. Mais si elle n'est pas canalisée, elle reste à l'intérieur, c'est une énergie qui est très forte. Ça, c'est important. C'est un point important. Voyez-vous, certaines personnes sont trop charnelles, d'autres ne le sont pas assez. On peut être charnel dans le sens négatif, carnalité, mais on peut ne pas être assez sensuel, et la personne qui est à côté de nous, elle a besoin d'avoir quelqu'un qui sait prendre un temps pour toute chose. Comme me dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour parler des choses spirituelles, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour jeûner. On ne peut pas vivre que de prière, on ne peut pas vivre que de jeûne, il y a un temps pour être sensuel, alléluia. Et ce sont tous ces temps qui sont pour Dieu tout spirituel, qui crée un équilibre dans notre foyer comme dans notre personne. Alors, vous avez ces feuilles-là avec vous. Vous pourrez voir qu'il y a des points qu'on n'a pas le temps d'aborder, qui sont mentionnés dans ces feuillets. On parle aussi des blocages qui peuvent être les nôtres dans le domaine sexuel. Il y a plusieurs sortes de blocages, et donc se poser des questions, discuter avec son conjoint, comme l'a dit Julia, combien il est important de discuter. Peut-être que ta femme, tu es en train d'imaginer qu'elle te rejette, mais elle s'approche pas souvent de toi parce que tu as une mauvaise haleine. Et comme tu es quelqu'un qui se met facilement en colère, elle n'ose pas te dire que tu as une mauvaise haleine. Alors toi, tu es en train de te faire tout un cinéma que ta femme t'aime plus et qu'elle te rejette, et elle n'ose pas te dire que tu as une mauvaise haleine. Et on va chercher un problème énorme là où c'est très simple, mais il faut arriver simplement à discuter et dire « Chérie, je t'aime, mais prends une menthe. » Ou tu as une mauvaise haleine, ou tu as des trous dans les dents, peut-être il faut voir... Peut-être il faut voir un dentiste, excusez-moi, mais c'est très courant. Et le diable, si on ne parle pas, va utiliser ces choses pour bâtir des tours qui n'existent pas. Et il y a beaucoup de points comme cela. Et si on démarre au quart de tour, dès que quelqu'un nous fait une réflexion, même les moindres choses, on ne va pas nous les dire.
Juste quand je parlais tout à l'heure de la femme qui souvent elle a besoin de parler, l'homme aussi il a besoin de savoir qu'on croit en lui. Et les hommes qui a une femme qui souvent il fait que de critiquer ou qui la baisse ou qui laisse manifester leur mécontentement tout le temps, eh ben l'homme il est blessé. Donc il a besoin de sentir que que sa femme, elle croit en lui, qu'elle trouve qu'il est quelqu'un de bien. Et ça verbalise aussi. Et souvent, on ne le dit pas assez souvent. Hein? C'est vrai, hein? Pas vrai? Hein? C'est pas mal. Hein?
Et il y a beaucoup de domaines comme cela. On peut avoir une déficience physique et puis il faut en parler pour que l'autre n'imagine pas des choses qui ne sont pas. Ça peut être un problème d'hygiène aussi. Un problème psychique. Il faut parler de ces choses-là. Un problème d'alcool aussi. Si on boit trop, quelqu'un qui boit trop, une femme n'a pas trop envie de se mettre au lit avec quelqu'un qui est à moitié sous et qui sent l'alcool. C'est très important. Il faut parler de ces choses-là. Nous avons reçu un couple il y a quelques temps. Ils étaient en train d'exploser à cause de l'alcool. Pourtant, c'est des gens qui s'aimaient. Et de plus en plus, lui, il avait tellement pris l'habitude de boire qu'il ne s'en rendait plus compte qu'il était saoul parce qu'il tenait le choc. Mais dans des moments particuliers, eh bien, sa personnalité changeait complètement. Si bien qu'au Noël dernier, ils ont invité toute la famille. Le gars était tout à fait normal à table, il a bu. Et à un moment donné, il a bu un verre de plus. Sa personnalité a complètement changé, sa discussion a complètement changé. Il est devenu à moitié fou, il a traité son fils de tous les noms. Il est parti au garage, il est allé se pendre. Et son fils a été obligé, des chrétiens, d'aller le décrocher. Et le lendemain, quand à l'hôpital on lui a dit ce qui était arrivé, il n'en revenait pas. Il se rappelait de rien. Trop d'alcool change les comportements. Trop de drogue, trop de médicaments change les comportements. Faites attention. Et on a envie de se retrouver au lit avec quelqu'un qui est la personne qu'on a épousée. Alors d'un côté... Nous sommes appelés à ne pas nous priver l'un de l'autre, et d'un autre côté, il faut amener quelqu'un en état au moment des rapports sexuels. On ne faut pas juste réclamer, parce que c'est l'autre extrême. Est-ce que vous me suivez ? On revient toujours à l'équilibre. Amen. Je crois qu'on a lâché beaucoup de choses très claires, très crues pendant cette journée. Hein? Si quelqu'un ne veut pas comprendre, il le fait exprès. On est d'accord? Et je me permets d'être précis, je pourrais l'être encore plus si j'avais plus de temps, parce qu'aujourd'hui, on a besoin que les choses soient claires, nettes et précises. Amen. Alors, vous trouverez, si vous avez, on va terminer avec ça, si vous avez des petits dossiers là, vous avez vos dossiers avec vous? Montrez-moi vos dossiers. Allez. Nous avons mis un questionnaire à la fin. Alors, on ne va pas vous demander d'y répondre en public ce soir, mais on va juste commenter le questionnaire pour que vous puissiez voir ça ensemble, si vous êtes en couple chez vous, si vous êtes célibataire, eh bien, ça vous permettra de commencer à faire des plans. Questionnaire. Des questions très simples, avec 4 réponses possibles. Priez-vous ensemble? Alors, régulièrement, irrégulièrement, très peu, jamais. Et rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux régulièrement avec des périodes courtes qu'irrégulièrement avec des périodes longues. Parlez-vous ensemble? Par parler, je veux dire pas superficiellement. Parler des choses, de la vie. On aime bien savoir ce que l'autre il a fait. Est-ce que vous parlez ensemble des différents sujets? C'est plus difficile pour l'homme de parler. Il a l'impression quand il pense que sa femme l'entend. Ok? Il a l'impression qu'il a tout dit à sa femme, l'homme en général. Ce qui se parle à l'intérieur de lui, et il croit que sa femme l'entend, et c'est pas vrai. Parce qu'on fonctionne différemment. Donc il doit faire un effort. Sa femme aime bien parler, aime bien que son mari lui parle, lui ouvre son cœur. Il n'aime pas que son mari lui fasse sentir que c'est qu'un objet. Parler. Régulièrement, irrégulièrement, très peu, jamais. Vous dites-vous les sentiments que vous avez l'un pour l'autre? Je t'aime, t'es belle, t'es beau, t'es doux, t'es gentil. Vous pouvez en trouver d'autres, hein? Est-ce que vous les dites régulièrement, irrégulièrement, très peu, jamais?
Si elle vous dit jamais que vous êtes beau, peut-être il faut passer au coiffeur, changer de coiffure. Je ne sais pas. Voilà, il faut s'entretenir. Si vous avez les mêmes vêtements qu'il y a 10 ans, soi-disant parce qu'ils ne sont pas abîmés, eh bien, je ne sais pas. Il faut se soigner un petit peu.
Faites-vous des choses ensemble? Des choses régulièrement, irrégulièrement, très peu, jamais.
Ensemble, et ça c'est une de nos découvertes, c'est que pendant des années, pendant mon mariage, moi j'aime bien marcher, faire du randonnée, aller transpirer un peu de j'aime bien me salir dans la nature, et ouais, Claude pas trop, hein, c'est pas... Et alors pendant des années, je partais jamais en balade, parce que pour moi, si on le faisait pas ensemble, eh bien je le ferais pas. Déjà je le faisais pas, simplement parce que voilà, ça lui faisait sentir un peu coupable, parce qu'il savait que j'aimais ça. Bon, ça, c'est une raison. Et aussi, deuxièmement, parce que j'arrivais pas à me motiver ou de m'imaginer de faire ça tout seul. Et parce que je voulais qu'il aime ce que j'aime. Ça m'énervait. Alors, finalement, on a décidé de se libérer. Alors, maintenant, je vais de temps en temps aller balader avec d'autres amis. Je me réjouis et je me sens pas coupable. Et je reviens, je suis en forme. Et tu passes une bonne après-midi. Ah, super, il était derrière son ordinateur. Dieu sait ce qu'il fait. Moi. Voilà, chacun son truc. Et c'est très important qu'on libère et qu'on fait indépendamment des choses, mais qu'on fait aussi des choses ensemble. Il y a toujours un terrain des choses où on peut être individuellement et d'autres choses qu'on aime faire ensemble. Il y a tout un lot de choses qu'on aime tous les deux. Alors ces choses-là, eh bien, on essaie de les faire ensemble. Et comme ça, eh bien, tellement des grands temps. Voilà.
plaisantez-vous ensemble. Régulièrement. Irrégulièrement. Très peu, jamais. Il faut de l'humour dans un foyer. Honnêtement, il faut de l'humour. Il faut apprendre à rigoler de certaines choses, parfois même dramatiques, parce que ça nous aide à les surmonter, parce que la joie du Seigneur est notre force. Vous disputez-vous? Régulièrement, irrégulièrement. Très peu, jamais. Là, il faudrait une musique. Vous savez, vous accusez-vous? Un jour, on a pris la décision. Et régulièrement, on reprend la décision parce qu'on redérape facilement. Et que je fais en sorte de ne plus t'accuser. Et elle fait en sorte de ne pas m'accuser. C'est-à-dire, quand quelque chose que tu as fait de travers, que tu as dit que tu n'aurais pas dû dire ou faire comme ça, eh bien, de façon, mon réflexe, c'est de savoir que moi aussi, je dis et fais des choses de travers. Et de savoir que, de toute façon, tu ne l'as pas fait pour mal. Non, je ne suis pas là pour t'accuser. Vous savez que ce n'est pas facile, hein, de ne pas accuser les gens. Mais c'est des décisions qu'on doit prendre. Je ne vais plus t'accuser. Et si je dérape, je me reprends. Je ne veux pas que tu aies un accusateur dans la maison, parce que l'accusateur, c'est Satan, l'accusateur des frères. Amen. Non, il ne faut pas qu'on ait un accusateur dans la maison, un accusateur dans le lit. On en a déjà un de taille, c'est Satan. Il nous suffit, il prend assez de place. Ok. Dans une église, c'est bon ça. Les amis, on décide de ne pas s'accuser les uns les autres. Alors, vous accusez-vous régulièrement, irrégulièrement, très peu, jamais. Ouais. Parce que l'accusation, c'est dans des choses très subtiles. C'est pas toujours formulé, c'est la manière dont tu dis quelque chose. Ah, t'es allé là? Pourquoi t'as dit ça? Rien que ça, c'est une pique. Alors, tout ça, on peut le dire différemment. Vous déchargez-vous mutuellement, j'ai mis vaisselle, course, etc. Régulièrement, irrégulièrement, très peu, jamais. Suivez-vous les conseils de l'autre? Est-ce que je peux entendre Dieu à travers l'autre? C'est important ça. Régulièrement, irrégulièrement. Et croyez-moi, si on sait écouter son conjoint, il nous sauvera la mise plus d'une fois. Surtout quand on est tellement sûr d'avoir raison. C'est là que c'est dangereux. Entendez-vous Dieu à travers l'autre? Régulièrement, irrégulièrement, très peu, jamais. Moi j'ai mis, vous touchez-vous là. Petite attention, bras, bisous, alléluia. C'est important de se toucher. Amen. D'ailleurs j'ai pris l'habitude avec mes filles, vous savez, j'ai pris l'habitude de, chaque fois que je vois. Papa, pas en public. Parce que maintenant elles ont 26 ans et 24 ans. Alors. Mais moi j'ai gardé l'habitude. Bon. C'est une preuve d'amour. Faut le recevoir comme ça. Et je suis gentil, pourtant je m'en retiens. Vous offrez-vous des cadeaux? Intéressant ça. Régulièrement, irrégulièrement, très peu, jamais. Attention, on est supposé offrir à l'autre des cadeaux qui lui plaisent à lui, pas à nous. Moi, mon père, il offrait des cadeaux à ma mère qu'il aimait lui. À ses anniversaires, il lui offrait des disques qu'il aimait lui. Par exemple, si vous aimez les fleurs, c'est bien de vouloir offrir des fleurs aux autres, mais assurez-vous d'abord qu'ils aiment les fleurs aussi. Parce que c'est pas parce que vous aimez quelque chose que votre démarche de don va être appréciée. Il faut faire attention parce que c'est vite fait d'essayer de se faire plaisir à soi sous le prétexte de faire plaisir à quelqu'un. Rapport sexuel, régulièrement, au moins chaque semaine, irrégulièrement, tous les 15 jours, très peu tous les mois, jamais, dans le sens de plus. Ah, j'aime être précis. Maintenant, on ne vous demande pas de répondre, surtout pas en public. Ça vous regarde. Et vous devez prendre en considération aussi qu'il y a des gens qui sont plus ou moins portés, il y a des dons différents aussi dans ce domaine-là, et ce qui est bon pour un n'est pas obligatoirement bon pour l'autre. Donc c'est à chacun de régler ces choses-là, ça ne doit pas se discuter. Je dis ça, vous savez pourquoi? Parce que dans certaines églises, à une époque, on passait Les gens faisaient passer des petits bouts en papier aux épouses pour leur dire le nombre de fois où ils devaient faire l'amour dans la semaine avec leur conjoint. Ça s'appelle s'ingérer dans les affaires des gens. Donc c'est même pas une plaisanterie.
Voilà.
Mais il y a aussi des normes d'équilibre. Donc on a voulu mettre les normes d'équilibre. Là. Ok.
On était étonnés de trop rencontrer des personnes.
Six mois, des gens dans le ministère qui n'ont plus pas de rapport sexuel. Et à la rigueur, le jour où ils en ont, ben c'est parce que l'autre il a vraiment besoin. Alors quand les gens, vous avez envie de leur dire, bon, arrêtez de prêcher, arrêtez d'être dans le ministère, rectifiez le tir et revenez après, parce que là il y a un problème. Là, il y a un problème. Alors, je répète que personne ne se sente jugé s'il est dans cette situation, mais si on est si direct ce soir, c'est parce que les problèmes, il faut les régler à temps, parce qu'après, le diable, il va nous rattraper avec ces choses-là. Et je vais même dire qu'il va exposer, c'est ce qui se passe avec des gens qu'on a relevés, des gens qu'on a conseillés, des gens avec qui on a été confrontés même. Le diable, il va exposer la vie publique de ces personnes à un moment donné. Au moment où ils s'y attendent le moins. Il y a des épouses qui ont pété les boulons, qui sont allées révéler au grand jour des choses insoupçonnées de ce qu'elles vivaient avec leur mari. Ou vice-versa. Parce qu'au bout d'un moment, on parlait de péter les boulons, ça nous rattrape au moment où on s'y attrape, on s'y attend le moins. C'est pour ça que cette journée, elle est importante. Là, on finit, on lâche ce qui nous reste de voix et autres. Mais on aura lâché plusieurs pépites dans cette journée pour pouvoir vous bénir, pour que les gens puissent écouter les CD et les vies puissent être transformées. Alors, s'il y a quelques personnes qui sont choquées, c'est pas grave, parce qu'au passage, il y en a des milliers qui peuvent être bénis. Amen. Exercez-vous le ministère ensemble. Par ministère, j'entends d'une manière générale. Est-ce que vous allez prier ensemble pour des gens, vous faites des choses pour le Seigneur ensemble, sans obligatoirement aller prêcher ensemble, on est d'accord ? Régulièrement, irrégulièrement, très peu, jamais. Question bateau, mais pas tant que ça, parce qu'elle est révélatrice. Est-ce que vous vous aimez toujours? C'est important. Beaucoup? Normalement, un peu, pas. Plus, moins. Pourquoi moins? Avec Dieu, ça doit être plus. Alléluia. Donc, depuis que vous êtes mariés, plus, pareil, moins, pas, plus. Régulièrement correspond à bon, continuez. Irrégulièrement devenez régulier. Très peu correspond à un grand danger. Et jamais correspond à catastrophique. Il faut mettre en place un plan de salut. Amen. Et je me moque de savoir comment vous levez les mains à l'église. Je me moque le nombre d'alléluia que vous prononcez dans la semaine. Ce qui m'importe, si par rapport à la parole de Dieu, vous vivez quelque chose qui vaut la peine d'être vécu. Ok ? Donc je le répète, on n'est absolument pas là pour condamner les gens, mais dans ce cas, il faut réagir. Parce que ça signifie qu'il y a des gens qui sont en train de souffrir. Ça peut être votre conjoint, ça peut être vos enfants, ça peut être...